Orientale. Je refuse totalement ce qui
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Kati qui vous propose parole aux auditeurs. Les démobilisés de la base militaire de Kitona demandent au gouvernement central de les renvoyer urgemment dans leurs milieux respectifs dans un bref délai suivant les processus de démobilisation et de réinsertion. Selon le porte-parole de ces démobilisés, sur le 2500 démobilisés, seulement 450 ont pu regagner leurs milieux respectifs. Les autres attendent depuis plus de 3 ans leur évacuation. Cette question soulève la problématique des réinsertions, des réintégrations et des réinsertions des anciens combattants des groupes armés. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081 890 6315 pour vos interventions en direct. Les débats se déroulent également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ce magazine est mis en onde par Dieudonné Nyangata, Julie Feza Bongonda est au standard et à la réalisation, et Piro et la Minji a le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
La problématique de réinsertion, réintégration des anciens combattants issus des groupes armés au centre de notre échange. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir cette politique près de 2000 qui sont à la base de Kitona, qui sont venus des différentes provinces de l'Est et issus des différents groupes et mouvements armés, demandent au gouvernement de pouvoir les réintégrer dans leur milieu d'origine. Ils ont demandé cela pour la plupart depuis plus de 3 ans qu'ils sont là. Et nous en parlons avec vous. Comment arriver à réussir le programme de réinsertion et intégration des anciens combattants des groupes armés? Et pour en parler, nous recevons dans ce studio l'honorable député Juvenal Mounoubo, qui est membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, mais secrétaire aussi rapporteur de la sous-commission forces armées à l'Assemblée nationale. Monsieur Juvenal Mounoubo, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de Parole.
Je crois que cette question de réinsertion, réintégration des anciens combattants des groupes armés, c'est une question aussi qui concerne votre commission et votre sous-commission.
Absolument, c'est une question qui touche au secteur de la défense. Eh bien, il y a des problèmes dans les secteurs. Pourquoi? Parce que vous avez suivi les mémos des ex-combattants de Kitona. Ils s'inquiètent des conditions d'hébergement, des conditions de vie dans les centres comme Kitona. C'était la même chose à Kamina. Souvenez-vous, même qu'à Kamina, il y a eu cet incident, cette fusillade du 20 juin 2016. En fait, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Les ex-combattants s'inquiètent du retard que prend leur transport, leur évacuation, pour qu'ils quittent les centres de regroupement, les camps, et pour qu'ils aillent dans la vie civile. Parce que la finalité du DDR, c'est de ne pas rester longtemps dans les centres. Mm-hmm. C'est d'aller dans la vie civile, de reprendre la vie civile, de vivre normalement comme ils vivaient avant qu'ils soient dans l'armée, quoi. Et donc, de vivre une vie normale. Et pourquoi? Parce que après la signature des accords, eh bien, il y a d'aucuns qui pensaient que voilà, la solution c'était la réintégration dans l'armée, mais d'autres, beaucoup plus au niveau du gouvernement et des partenaires, ont trouvé que la voie qu'il faut, et moi je suis d'accord avec ça, il faut plus mettre l'accent sur les DDR. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on peut profiter de l'énergie, du travail de ces ex-combattants. Dans la société, on peut en tirer profit. C'est une énergie qu'on peut utiliser dans les activités professionnelles, on peut utiliser même dans les travaux de route. Hein. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement traîne, par exemple, à lancer des chantiers de route où on peut utiliser les ex-démobilisés sous forme de ce qu'on appelle IMO. Ils ont reçu des formations au niveau des centres, que ce soit Kitona, que ce soit Kamina, à travers différentes filières. Mais aussi on leur a donné $100 hein, comme une sorte de moyen de faire. Et évidemment ce n'est pas beaucoup, On leur a donné aussi, on donne à ceux qui quittent un kit de réinsertion. Mais je crois qu'il faut des moyens aussi. Parce qu'un autre problème, c'est quoi? Il n'y a pas d'argent suffisant pour financer ces
questions. Mais je sais que quand on est sorti de la guerre des 98-99 jusqu'en 2001, le programme a été plus aussi soutenu par des partenaires comme avec la Banque mondiale. Alors, il fallait que le gouvernement congolais prenne la relève dans ces cas. On est sorti de la Commission nationale des CONADER, comme on appelait dans les temps. Le travail était spectaculaire. On pouvait quand même tirer les leçons de ce qui a été fait avec le bailleur de fonds, avec la CONADER, pour pouvoir continuer. Mais à un certain moment, dès lors qu'on est un pays où nous avons des groupes armés qui s'intègrent, c'est-à-dire qu'on devait avoir un mécanisme permanent, même si la structure existe, mais d'une manière permanente, avec un budget conséquent qui pouvait permettre à ce que le gouvernement assure cela, parce que nous sommes encore quand même, comme je l'ai dit, dans un pays post-conflit, mais avec des groupes armés qui naissent de gauche à droite. Et on peut dire à certains moments que nous avons un déficit dans le maintien de ces programmes d'une manière permanente et cohérente.
Il y a un problème d'appropriation, d'abord de gestion, de bonne gestion de l'appui qu'on a eu. Vous faites bien d'évoquer les années 2014. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un programme avec CONADER, avec un grand financement de la Banque mondiale. Souvenez-vous du programme multi-pays, MDRP. Mais la gestion n'a pas été exemplaire. Il faut dire la vérité. Il y a eu même un audit de la Banque mondiale dans ce sens. Et puis, il y a un problème d'appropriation. Donc, il ne faudrait pas que le gouvernement pense que c'est les programmes de partenaires. Il faut attendre les gros de l'extérieur. Il faut qu'au niveau interne, dans le budget de l'État, le souci d'ailleurs pour les budgets ici, c'est que les budgets financent les différentes réformes qui ont été conçues. Mais beaucoup de réformes, que ce soit les secteurs de sécurité, la fonction publique et d'autres réformes, souffrent du fait qu'il n'y a pas assez de moyens pour leur financement. Parce que, d'une manière globale, il n'y a pas une stratégie efficace pour lutter contre le coulage des recettes, l'évasion fiscale, la corruption, pour mobiliser l'argent et financer les réformes qui ont été lancées. Et donc, le secteur des aides et des combattants, le secteur du DDR, qui est un sous-secteur du ministère de la Défense, souffre également de ça. Et pourquoi? Parce que lorsque je fais des recherches, c'est autour de 21 millions de disponibles au niveau de la Banque mondiale, qui a été décidé au niveau de la Banque mondiale. Mais côté gouvernement, il n'y a pas un grand montant qui a été libéré. Pourquoi? Parce que l'estimation qui était faite, en tout cas pour le DDR3, c'était de mobiliser 85 millions de dollars. Mais lorsqu'on voit ce que le gouvernement mobilise, on voit ce que la communauté internationale donne, eh bien, on est loin.
Et là, c'est difficile. Mais on a vu quand même avec l'expérience de la CONADER, si on peut revenir là-dessus, qu'il y a eu des structures locales qui s'étaient organisées, qui ont reçu l'appui. Mais peut-être, est-ce que le gouvernement ne peut pas aller dans le sens de développer la coopération avec des structures locales, des ONG, comme on l'a vu, dans l'encadrement, dans la réinsertion? Je crois que dans les provinces de l'Est, il y a quand même des structures qui ont fait preuve dans l'encadrement des ex-combattants. Est-ce que le gouvernement ne peut pas recourir à ces genres de partenariats si on sent peut-être qu'on a un déficit au niveau du pouvoir public de mobiliser les moyens conséquents pour le faire? On peut aller à travers des structures qui ont fait preuve sur le terrain et qui sont capables de pouvoir récupérer ces anciens combattants, les encadrer, les réinsérer, parce qu'il faut éviter quand même que quand ils restent longtemps sans être occupés pendant 3 ans et qu'ils rentrent dans leur milieu avec tout ce qu'il y a comme danger, qu'on puisse encore tenter de retourner derrière la Kalachnikov et revenir encore, n'est-ce pas, en bourse.
Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut augmenter les financements. Il faut faire une bonne gestion. Il faut s'approprier les programmes. Il ne faut pas donner l'impression que c'est quelque chose que ça vient de l'extérieur ou que c'est ça, que ce soit les partenaires qui insistent. Il faut les suivre. Là, vous parlez du suivi, vous soulignez le suivi. Pourquoi? Parce que le financement, on ne l'aura pas ad vitam aeternam. À un moment donné, s'il y a des mécanismes de suivi, des réseaux communautaires, des suivis, eh bien, il faut à un moment donné que la communauté soit impliquée pour qu'il y ait une pérennisation. Et il faut bien faire le suivi sur le terrain. Ce qui n'a pas été fait, parce qu'on n'a pas assez d'informations, si vous arrivez même au ministère, il n'y a pas assez d'informations sur comment sont devenus, qui sont devenus ceux qui ont été démobilisés en 2014-2015. On n'a pas une base de données pour savoir, pouvoir renseigner sur la situation de chacun. Est-ce qu'on peut localiser chaque démobilisé? Parce qu'en principe, chaque démobilisé doit avoir une fiche, un dossier. Est-ce que M. X est-il devenu qui?
et qui n'a pas pris les armes par la suite. Comment est-ce qu'il vit dans la communauté? Est-ce qu'il n'est pas devenu peut-être un criminel? Ça peut arriver aussi qu'il est devenu un bandit ou peut-être qu'il est en prison. Donc on devrait avoir le suivi parce qu'il faut faire attention. Quelqu'un qui a pris les armes, il a été dans un groupe armé et il y a eu signature des accords. Il doit être démobilisé, inséré dans la vie civile. Eh bien, il faut bien l'orienter. Pourquoi? Parce qu'il peut constituer en lui-même une bombe
par
bombardement si l'orientation professionnelle n'est pas bien faite et si le suivi de sa vie post-démobilisation n'est pas bien réalisé.
Avant que les éditeurs, je crois qu'on s'est retrouvé avec vous dans ces studios quand nous avons évoqué les dépenses qui sont... les dépenses exécutées dans les domaines de défense et de sécurité, on l'avait dit la fois passée, qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, ça a été dénoncé par l'ONU Transparency International. Alors, ça doit être aussi le même problème aujourd'hui, hein, savoir exactement combien d'argent mobilisé par le gouvernement, ça a été affecté comment, parce qu'il y a même 3 ans que les gens traînent dans un centre à Kitona, ça fait quand même c'est beaucoup quand même. On va revenir sur cette question. Alain Bolodjoa, merci d'être avec nous. Amos, vous êtes à Bukavu. Ingénieur Bassi à Kisangani, 081 890 75 pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Alain, comment on peut arriver aujourd'hui à mettre en place des mécanismes plus efficaces pour gérer cette question des anciens combattants? Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Radio Capi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde. Bon, moi je crois que je ne partage pas vraiment l'avis des institutions de la République et surtout de votre invité. Lorsqu'on cherche à trouver des solutions durables, on doit prendre le temps de mesurer la portée de l'action. Aujourd'hui, nous cherchons à trouver des solutions aux problèmes qui ont été créés et j'estime de mon point de vue que les instruments que nous utilisons favorise plutôt la situation, c'est-à-dire que nous pérennisions cette situation. Comment peut-on trouver des solutions à un problème qui a été créé par la volonté des gens en les gratifiant ou en les primant? Aujourd'hui, notre pays a connu des crises et nous avons perdu plus de 6 millions de concitoyens par le fait que les gens ont pris des armes. Au lieu d'appliquer la loi dans sa rigueur, on fait une exception en les mettant quelque part, en les prenant en charge. Et à la fin, on nous dit qu'on doit mettre en place des mécanismes de pérennisation. Non, nous devons plutôt mettre fin à l'impunité. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de liberté sans ordre, il n'y a pas d'ordre sans discipline, et il n'y a pas de discipline sans sanction. Aujourd'hui, si notre pays n'a pas le moyen de sa politique ou de soutenir ses égarés, c'est tout simplement parce que l'image de marque de notre pays a été terrible et parce que les gens de l'Est n'arrivent plus à produire suffisamment. Et aujourd'hui, on doit demander à l'État de financer leur réinsertion. C'est vrai, il y a une nécessité parce qu'on ne peut pas les abandonner. Mais j'estime de mon point de vue que si nous voulons rendre plus pérenne cette action, ou si nous voulons mettre fin à ces genres de pratiques, eh bien on doit apprendre à sanctionner. Si on avait sanctionné ces gens, eh bien on n'allait pas jeter de fertilisant dans cette genre de pratique où on voit à chaque fois il y a des groupes armés qui se créent parce qu'on sait qu'à la fin il y aurait une loi d'amnistie qui va être prise, ils vont être exemptés de leur peine tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir une paix factice de mon point de vue. On doit arriver à lever plus des options du genre sanctionner pour que cela ne soit pas reprise par les jeunes qui viennent. On doit arriver à décourager la création de groupes armés et non à chercher des solutions palliatives. On va prendre l'argent alors qu'on n'a pas su produire tout simplement parce qu'il y avait guerre à l'Est. On doit prendre l'argent alors que les gens qui ont participé dans la création des richesses ne sont pas encore payés. Voilà pourquoi moi je dis, bien que je soutiens partiellement la démarche de réinsertion et de mobilisation de ces groupes armés, mais j'estime de mon point de vue, on doit sentir que l'État négocie plus avec ces groupes armés qui qui crée la désolation dans notre population. C'est ainsi qu'on va trouver des solutions durables et non des solutions palliatives comme on voudrait nous le faire.
Alors, vous estimez qu'aussi longtemps qu'il y aura toujours le programme de démobilisation, réintégration, ça va encourager les autres personnes participantes, que même si j'intègre aujourd'hui un groupe armé, demain je pourrais passer par un centre de rééducation, je vais revenir à la vie civile. Et pour vous, si l'État prend des mesures dragonines aussi en termes de sanctions, il y a moyen de décourager ceux qui vont dans les groupes armés. Sinon, le traitement risque de favoriser la réintégration. Et ils vont revenir, les gens vont encore aller, ils savent qu'ils vont passer dans le centre. Et demain, ils vont devenir. On va encore commencer à les côtoyer dans la société. Et pour vous, c'est plus une mesure draconienne qui peut aider à résoudre cette question plutôt que passer par des programmes qui font que les gens soient encouragés encore à pouvoir réintégrer les groupes armés au lendemain.
Effectivement, c'est ce que je dis, c'est ce que j'affirme, je confirme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des gens qui étaient dans des rébellions et qui sont revenus encore, ils sont revenus encore à deux fois, à trois fois, tout simplement parce qu'on sait que après avoir tué 50 000 personnes, on peut devenir ministre, on peut être issu avec pompe, comme on a fait avec Gédéon, on peut être réinséré dans la société. Et même dans la plupart des cas, ces gens n'arrivent pas à rentrer dans leur fief d'origine. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait, des choses là-bas. Et c'est ça aussi un droit à la justice. On ne peut pas chercher un état de droit dans l'impunité. On doit arriver à sanctionner. Parce que si on ne sanctionne pas, eh bien, ça peut avoir ça peut stimuler les autres à faire de même. Et pourtant, nous voulons avoir un état de droit qui dit, lorsque vous tuez quelqu'un, eh bien, vous devez être interpellé et non être amnistié ou être exempté. Mais non, les jeunes qui sont là, qui sont des Hébreux, qui n'ont pas pris des armes. Eux qui vont voir qu'à la fin, tous ceux qui ont eu à prendre des armes vont être gratifiés de quelque chose. Et ils disent que 100 dollars, c'est peu. C'est peu par rapport à quoi? Ceux qui n'ont pas du travail, ceux qui n'ont pas pris des armes, méritaient les 100 dollars. Mais on doit donner à des gens qui ont tué. Gédéon a été reçu avec pompe, comme s'il avait gagné une coupe de football. Et pourtant, c'est un criminel qui devait être arrêté, qui devait être jugé.
Mais est-ce que cette question, nous avons eu le débat?
On doit comprendre que pour être respecté dans ces pays, il faut prendre des armes. C'est ça l'image que les autres donnent. Moi, je dis, on doit mettre fin à ce genre de pratiques, et c'est ça la durabilité de la solution.
Merci
on
beaucoup,
ne doit pas
maître,
chercher à trouver une solution palliative.
Merci beaucoup Alain, les cas gênants, on a eu un débat houleux ici dans Parole aux auditeurs et plusieurs personnes ont estimé, mais nous avions quand même eu les réponses du pouvoir public qui estime que c'est une affaire qui ressort de la justice, à la justice de savoir qu'est-ce qu'elle va faire dans les jours à venir, on ne peut pas s'y lutter dedans, mais vous avez quand même souhaité qu'il y ait plus de sanctions plutôt que de traitements de faveur qui vont faire assez que demain les autres jeunes tirent l'exemple et puis réintègrent les groupes armés parce qu'ils savent qu'ils seront demain, ils pourront revenir dans la société, être insérés, avoir des moyens. Merci beaucoup, Alain Bolodja Amos. Vous êtes à Bukavu. Alors, pour vous, comment on peut arriver d'une manière plus efficace à s'occuper de cette question des anciens combattants qui ont intégré des groupes armés? Et vous qui êtes à Bukavu, je crois que vous avez peut-être des témoignages, des exemples, peut-être de ce qui a réussi déjà, qui a été déjà fait, par exemple, à Bukavu, au sud du Kivu, qui a réussi, ceux qui étaient partis, qui ont été réintégrés dans la société, réinsérés. Et qui aujourd'hui sont utiles, comme le disait notre invité tout à l'heure. Amos, bonjour.
Bonjour, Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, bonjour à l'auditeur. En fait, par rapport à la question que vous venez de me poser, qui cadre avec le sujet aujourd'hui, moi je veux d'abord juste dire à l'intervenant de tout à l'heure, à Le Bolodja, qu'il veut d'abord comprendre que ce qu'il vient de dire aurait. Son pesant d'or au cas où nous serions dans un état responsable, malheureusement. Parce que quand il parle de la justice qui doit faire son travail, quel genre de justice et qui sera appliqué par qui? Parce que tout ce qu'il venait d'évoquer, il doit d'abord comprendre que la majorité des gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ils sont ceux qui sont passés, ils ont été dépassagés dans des groupes dans des groupes armés. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont pillé. Voilà qu'ils ont été gratifiés, et beaucoup d'aujourd'hui, ce sont ceux qui nous gouvernent. C'est là que je vais juste lui dire qu'il doit éviter de dire que non, il faut qu'on mette ça à l'impunité. Parce que tout le monde qui nous gouverne, au moins la majorité, pour ne pas exagérer, 90% de ceux qui nous gouvernent sont issus des groupes armés. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas vouloir mettre fin à ce genre de pratique, ou dire qu'ils vont maintenant commencer à punir, parce que quand on va dire qu'on va punir, on ne sait pas qui sera épargné parmi tous ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est ça de la question de vouloir dire comment on peut parvenir à résoudre les problèmes des anciens combattants. Moi, je pense que, comme je te disais, cette question a difficile à trouver solution au Congo. Tant que nous serons dans ce régime, dans ce système actuel qui nous gouverne, il est pratiquement impossible de résoudre le problème des anciens combattants. Moi-même, j'ai vu quand on a commencé la question des conadères, on a parlé des affaires de tout ça. À ouvrir, on a commencé là. Mais il faut voir les gens qui ont été d'abord démobilisés, ils ont été mis dans des centres, on leur avait donné des promesses qu'ils seront, après la démobilisation, l'intégration et l'intégration, ils auront quelque chose à ces gens de mieux vivre dans la société. Mais il faut voir comment l'argent a été géré. Les mêmes gens qui ont dit qu'ils devaient aider ces gens à intégrer la vie civile, ces gens n'ont rien eu par rapport à toutes les promesses qu'on leur avait données. À certains gens, on avait promis qu'on va leur donner des vélos. Même les vélos ont été pillés. D'autres vont vous dire qu'ils étaient dans des centres, mais ils ne mangeaient plus. Par manque de quoi manger, c'est-à-dire on a détourné la somme qui était affectée à cette activité. Pour vous dire, et si vous essayez de voir, vous allez comprendre que cet argent était pillé, détourné par ceux-là même qui nous gouvernent. C'est-à-dire nos autorités qui sont qui connaissent comment cet argent est parti, comment cet argent a été détourné. C'est pourquoi moi je me dis, je ne vois pas comment on peut parvenir à résoudre cette question des anciens combattants, qui fait que les mêmes gens qui ont créé ce problème, ce sont eux-mêmes qui cherchent encore à détourner même l'argent affecté par les organisations internationales. Parce que vous allez comprendre que moi-même, je doute que notre gouvernement peut donner de l'argent pour permettre à ces gens qui sont démobilisés par rapport à ce que nous connaissons pour ce qui est de notre...
Alors pour vous, Amos, vous estimez que la question, elle est, on peut la prendre d'une manière structurelle. Alors, ce qui veut dire, si on n'a pas une amélioration de la gouvernance, il sera difficile aujourd'hui qu'on puisse résoudre cette question. Si vous revenez aujourd'hui à la manière dont notre invité venait de les dire, comment les fonds ont été affectés, même ce qui a été donné par les bailleurs de fonds à réinsérer les anciens combattants, ça a été géré. Mais il faut quand même qu'on arrive aujourd'hui à savoir s'il faut mettre de moyens, que ce soit pour les intrants agricoles, parce qu'il y en avait qui avaient choisi, dans tous ces centres, il y en a qui choisissent les secteurs agricoles, les autres c'est l'élevage, les autres ce sont des petits métiers, c'est la menuiserie, c'est ci, c'est là, mais il fallait leur donner de moyens. Mais le problème réside aujourd'hui au niveau de la gouvernance. Mais vous estimez que ça va plus loin? Quand on doit avoir aujourd'hui, Alain aussi le disait, la manière dont beaucoup de gens ont accédé aujourd'hui dans les postes, il faut quand même qu'on se le dise, quand ils sont sortis de la guerre avec les dialogues de Sun City, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans les postes des responsabilités, non parce que les gens ont été élus, mais parce que les gens sont issus des différents mouvements et groupes qui ont été formés. Et vous estimez que si on reste dans cette configuration, ça sera difficile aujourd'hui qu'on ait des mécanismes efficaces pour lutter ou bien résoudre cette question des anciens combattants. Mais la question de la gouvernance, vous venez quand même de la soulever, c'est très intéressant. Merci beaucoup à mon ingénieur Vassio, vous êtes à Kisangani. Merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour.
Bonjour Radio Capi. Bonjour Radio Capi, je vous remercie pour m'avoir passé la parole. Je salue aussi l'invité et tous nos compatriotes qui nous suivent. Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, nous estimons sur ce terrain que, en tout cas, le grand problème, c'est le problème de nos autorités et les concepteurs de ces programmes. Parce que nous avons remarqué que d'abord, ils ont utilisé des gens qui ne sont pas vraiment experts dans ces domaines. C'est pour cela, sur ce terrain ici, nous remarquons qu'il y a des problèmes très sérieux. Parce que, en amont d'abord, ils devaient préparer l'équipe, préparer la population pour recevoir ces démobilisés. Mais ce que nous remarquons ici, il y a toujours des programmes qui se créent, c'est démobilisé, ils ont commis des crimes, donc des problèmes ici à la communauté. Et les programmes là ne tiennent même pas compte que ces gens-là doivent rentrer, doivent être réintégrés là où ils ont commis des crimes. C'est ça aussi le problème. Ils arrivent ici, parfois, ils sont isolés. Ils sont isolés par rapport à la population. Vous voyez, c'est déjà un problème. Et les programmes là qu'on initie, le gouvernement initie le programme, il prend aussi les gens qui ne sont pas experts. Il forme les gens on ne les accompagne pas. Après 2 mois, 3 mois, et les gens sont là 6 mois, après ils ne savent plus quoi faire, enfin ils vont rentrer dans leur groupe armé. C'est ce qu'on voit ici. On voit qu'on tourne seulement sur le même point. Mm-hmm. Parce que je peux vous donner l'exemple, il y a les centres qu'on a initié ici, je sais pas si l'invité peut aussi nous dire quelque chose. Il y a les centres de réinsertion qu'on a construit dans les territoires, par exemple, de Routourou, Matissi, Loubéo. Et il peut nous dire d'abord, est-ce que ça fonctionne encore? Nous, nous travaillons sur ce terrain. À Bounia, on a été. Nous sommes ici dans les Congo profonds. On voit les choses, mais ce n'est pas les propos qu'ils disent. Peut-être qu'ils disent aux ceux-là qui ne sont pas dans les pays. Qui nous disent d'abord, est-ce que ces centres qu'ils ont fait, est-ce que ça sert à quelque chose pour la population? Tous ces mondes-là qui rentrent ici, soi-disant qu'ils sont réintégrés ou démobilisés, mais ils sont plus rentrés dans leur groupe armé, c'est ce qu'on voit. C'est déplorable.
Oui, mais je veux dire, Mathieu, mais notre invité le disait tout à l'heure qu'on a un problème aujourd'hui de la cartographie, d'une base de données pour qu'on se rende compte réellement ceux qui vont partir des Kitona, qui vont retourner par exemple à Masisi ou bien à Walikale et partout ailleurs, ceux qui sont venus par exemple du Nord Katanga, et quand on s'assure que quand ils rentrent, on peut l'identifier, il peut être accueilli par un centre local et on pourra l'identifier qu'aujourd'hui il est devenu agriculteur, il est éleveur, soit il est mécanicien, il peut autre chose. Et c'est ça, c'est difficile, c'est ce qui manque. C'est pourquoi vous dites aujourd'hui qu'est-ce que ces centres sont devenus, parce que la peur c'est que ces gens qui rentrent parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir les encadrer, demain ils réintègrent encore les groupes armés, et comme vous l'avez dit, ingénieur, nous risquons de rester ainsi dans un cercle vicieux. Mais vous estimez qu'il y a un problème aujourd'hui, il y a des experts, des gens qui doivent animer ces structures, mais aussi les moyens qui doivent être mis à leur disposition pour travailler, ingénieur Bâtier.
Oui, monsieur le journaliste, vous savez, ce qu'ils vous disent là, ce sont des théories qui est dites au niveau du média, mais ce n'est pas la réalité sur le terrain. Quand vous arrivez sur le terrain, il n'y a pas de choses, des structures qui sont en place pour accueillir toutes ces personnes-là. Mm-hmm. Ici, il n'y a que des monuments, des bâtiments qui sont là, qui vous ne pouvez même pas s'imaginer. Ils ont amené des trucs, que non, voilà, ça va aider la population, des épaves, des véhicules, des histoires, mais c'est vraiment, tu ne peux même pas y croire, mais notre gouvernement devrait faire quelque chose. Mais aussi, ces gens-là, ils sont là, ils sont considérés comme s'ils sont là de prison. Quand ils vont rentrer ici, leurs objectifs, c'est déjà, c'est seulement aller en brousse. Vous voyez, tout ça, ça donne juste encore des difficultés à la population.
La population
a besoin des programmes de soulagement, oui. C'est-à-dire que ces gens-là doivent venir ici, ils doivent être utiles à la société, pas encore venir encore ajouter d'autres souffrances
à la population. Et les travaux à la base de tout. Merci beaucoup, ingénieur Bâtier. Vous avez quand même évoqué une dimension dans votre intervention, c'est la préparation de la population. Il fallait agir en amont, parce que ces gens qui sont issus des groupes armés, qui sont partis dans les centres des démobilisations, ils doivent rentrer dans leur milieu d'origine. C'est le milieu où on a pris les armes, avec tout ce qu'on peut avoir causé comme mal. Et Alain Boulot, je lui insistais beaucoup sur le rôle de la justice pour résoudre cette question. Merci beaucoup, ingénieur Bâtier. Nous allons écouter Bintou. André, vous êtes à Kananga, vous gardez la ligne. Bintou, vous êtes à Kinshasa. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs. Merci, M. Thérault. Bonjour à tout le monde.
Mm-hmm. On vous écoute.
OK. Bon, en ce qui concerne le sujet du jour, bon, les démobilisés de Kitona qui réclament leur rapatriement dans leur milieu d'origine. C'est tout à fait naturel que, comme ils ne sont pas retenus dans l'armée et qu'ils doivent maintenant rentrer dans leur milieu d'origine, il faudrait que le gouvernement congolais puisse respecter ses engagements vis-à-vis de ses citoyens. Puisque ces gens-là, ils vivent très loin vis-à-vis de leur famille. Ils ont laissé de leur famille très loin dans le Nord Kivu, Sud Kivu, ce sont des gens qui sont venus de l'Est. Mais le milieu dans lequel ils doivent rentrer, c'est là qui pose problème. Puisque la sécurité, les problèmes pour lesquels ils ont été amenés à Kinshasa, principalement dans le Bas-Congo, à Kitona, n'est pas encore fini. Le milieu est encore insécurisé. Leurs amis qui sont restés en brousse continuent à faire la même chose. Et si le gouvernement n'a pas de manière d'équipe de réinsertion, qu'ils trouvent convenable pour leur permettre de vivre normalement, ils seront passés comme tous les autres intervenants à réintégrer les groupes armés. Alors, il faudrait que le gouvernement puisse agir de manière conséquente pour qu'on ne puisse pas revivre les mêmes problèmes, puisque souvent, il ne faut pas attendre les pires comme nous l'avons vécu dans les années antérieures, dans les mois passés. Il n'y a pas longtemps, il y a eu soulèvement dans les Qataris, d'autres démobilisés qui n'ont pas été pris en charge à temps ou qui n'ont pas été rapatriés à temps. Et Mwanda et Kiton en particulier a déjà connu les mêmes problèmes aussi par le passé. Et la population de Mwanda ne veut pas revivre la même chose. Il ne faut pas plus agir en responsable, chercher à trouver des solutions à ces gens-là.
Oui, on a des soucis entre Kinshasa et Kinshasa, la ligne est entrecoupée, mais vous estimez que le problème aujourd'hui, c'est la responsabilité du pouvoir public, c'est les gouvernements qui doivent mettre les moyens. Mais non seulement il faut réinsérer ces gens, mais le milieu respectif, le milieu d'origine, ça pose déjà un problème parce que les cas de l'insécurité persistent dans la plupart de ces territoires où ils sont issus. Et quand ils vont rentrer, s'il n'y a pas d'équipe de réinsertion suffisante, ils seront tenter de pouvoir rejoindre leurs amis qui sont restés dans ces milieux et continuer à alimenter ici les groupes armés. Mais là, il revient vraiment au gouvernement de prendre ses responsabilités. 081-890-1073. Comment arriver à réussir à mettre en place des mécanismes efficaces pour la réinsertion et l'intégration des anciens combattants des groupes armés? C'est la question au centre de notre échange.
Radio Capitambur, son studio de Béni, avec au café service et parole aux auditeurs. Habitants de Béniville et environ, voici une occasion unique à ne pas rater. Venez nombreux, participez à ces deux émissions, samedi 12 et lundi 14 novembre 2016, de 10h à 12h dans la salle Dioum.
Au Béniville, c'est ce que nous sommes. Nous allons parler de la consolidation de la paix et comment assurer le développement social au Nord Kivu. J'ai moi le plaisir de vous présenter et coordonner ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs spéciales. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous sous vos applaudissements.
Au Café Service et Parole aux auditeurs, en direct de Béni avec J.R. Lungembo et Jody Daniel Nkiachama. Caribou Kouaroté. Participez à Parole aux auditeurs 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocafé.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amégi.
Et nous n'oublions pas Fatou Mapoukou Dilengedjou qui va signer la réalisation de ces deux magazines qui vont être produits à Béni. Le rendez-vous est pris le samedi et lundi. On retourne dans ce studio, Juvenal Mounoubo, vous êtes député national, membre de la commission défense et sécurité et rapporteur de la sous-commission groupe à forces armées au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi les compatriotes. Vous savez qu'il y a d'abord l'impression que beaucoup de gens ont, c'est les marques de moyens peut-être que le gouvernement doit mettre en place pour la question des anciens combattants. Mais aussi la question de la justice, mais la question aussi de préparation des milieux là où les gens doivent être réintégrés. Si ces milieux sont encore infestés, ça sera difficile que les actions puissent être plus efficaces. Alors, en écoutant les uns et les autres, en voyant aussi la gravité du dossier, ça devait être un dossier vraiment qui devait être pris au sérieux au niveau du gouvernement congolais.
Tout à fait. Et je crois, M. Pierrot, il faut d'abord répondre à M. Bolojoa par rapport à la justice. Il a raison, lorsqu'on signe les accords, et quand on signe les accords, il faut toujours voir deux choses en face. Il y a la justice et la paix. Et il ne faut pas faire la paix et oublier la justice. Raison pour laquelle je suis d'accord avec lui, il faut de la justice, une justice congolaise d'abord. Et il faut aussi se plier aux insuffisances de la justice congolaise. Raison pour laquelle il y a la Cour pénale internationale. Et ici, vous savez, il y a un débat en Afrique sur le retrait. Et là, j'encourage les Congos à y rester. Et je pense même que des enquêtes devraient débuter et être intensifiées, surtout dans la partie Est, où plusieurs exactions ont été commises contre les populations civiles. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais il faut résoudre les problèmes profondément. Et pour résoudre les problèmes profondément, je crois qu'il faut construire les secteurs de sécurité. On ne le dira jamais assez. Il faut accélérer la RSS, la réforme du secteur de sécurité. C'est ce qui peut nous permettre de restaurer comme il se doit l'autorité de l'État. Parce qu'il y a des groupes armés, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système de défense qui fait peur. C'est tout simplement ça. Où il y a des endroits où les gens ils ont un sentiment d'être abandonnés sur le plan sécuritaire.
Et il y a des idéologies comme ça qui se développent en termes de self-defense ou auto-prise en charge en matière sécuritaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a des groupes armés qui naissent un peu dans ces contextes-là. Mais l'État doit s'élever au-dessus de toutes ces forces-là. C'est la contrainte, la coercition que nous avons officielle. Et l'État doit restaurer son autorité et ça passe si facilement lorsqu'on a une armée efficace, on a une police, on a des services de renseignement, on a l'administration de la justice qui est rapprochée de la population. Il y a un autre auditeur qui a parlé de la bonne gouvernance. Oui, il a raison, hein, parce qu'on ne peut pas concevoir les cas de détournement, par exemple. On ne peut pas concevoir, j'ai appris dernièrement que c'était au niveau de la police, il y a eu des mesures que le ministre de l'Intérieur a prises. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu détournement de ce qui est destiné aux policiers et tout ça. Donc, que ce soit dans l'armée, dans la police, il faut veiller à ça. Il faut de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, ça veut donc dire qu'il faut de la rigueur, il faut lutter contre tout ce qui peut empêcher à ce que les ex-combattants, puisque c'est la question actuelle, ne tirent pas avantage de ce qui est prévu pour eux. Donc, de la bonne gouvernance, ça s'impose. Le suivi aussi, comme l'a dit l'ingénieur Batter, et j'en ai parlé, vous avez bien oui. de rappeler cela, qui font un suivi, hein, ça ne se limite pas seulement par la distribution des kits de réinsertion. Il faut un mécanisme local de suivi, même lorsqu'il n'y aura plus de financement. Et il faudrait que ceux-là qui ont été réinsérés dans la vie civile ne soient plus tentés à reprendre les armes. Parce qu'ils savent manier les armes, il faut faire attention lorsqu'ils se retrouvent dans la communauté sans encadrement. Il y a un secteur important, la protection civile, hein, lutte contre les catastrophes. Ce n'est pas développé au Congo, mais on pourrait développer ça à partir effectivement de ces ex-démobilisés. Mais tout ça, ça doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie pensée, bien pensée au niveau du gouvernement.
Et la question de la préparation de la population, ça se pose. Il a dit que c'est très intéressant.
Ça. Et ça soulève la question de la réconciliation aussi, parce que vous savez, lorsqu'ils étaient dans les groupes armés, ils ont commis des exactions. Certains ont commis directement et d'autres ont commis des exactions. Pourquoi ? Parce que poussés par leur commandant. Il y a la notion de responsable, de chef hiérarchique.
Oui.
Alors là, il faut aussi penser, lorsqu'il rentre dans la vie civile, la justice, oui, je suis tout à fait d'accord avec Bolojoie, mais également des mesures de réconciliation, des médiations au niveau communautaire, c'est important. Pourquoi ? Parce que le retour à la vie civile, ça peut aussi donner un coup d'envoi à des mésententes là-bas, parce que oui. Il peut y avoir du cas, une personne qui est restée frustrée. Pourquoi ? Parce que sa chèvre a été pillée ou que son enfant a été tué par les éléments de tel groupe armé et ces éléments sont de nouveau retournés dans la vie civile. Donc il faut penser à des mesures de prévention de conflits et de réconciliation à la base, des médiations, tout ça. Il faut utiliser, pourquoi pas aussi des structures des églises comme les commissions justice et paix, par exemple, de l'église catholique, pour y arriver. Donc, il faut faire la paix. Chaque fois qu'on cherche à faire la paix, il ne faut pas oublier la nécessité d'appliquer la justice parce qu'on ne peut pas construire une société basée sur l'impunité. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et c'est que Bill, tu disais tout à l'heure, il dit, quand on doit réinsérer ces gens, ils doivent revenir dans un milieu qui n'est plus infesté. Or, la plupart des zones où ces groupes armés sont ici, ce sont des zones où il y a encore d'autres groupes qui existent. La peur aujourd'hui, c'est que si on fait partie des gens des Kitona, qu'on leur remette aujourd'hui, par exemple, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, et qu'il là-bas, il y a encore des groupes armés, ça peut être un danger. Cela veut dire, comme vous l'avez dit, le travail doit se faire en amont. Cela veut dire, on instaure l'autorité de l'État dans un milieu, et tout en préparant, bien sûr, ceux qui étaient, qui vont revenir pour s'installer dans la vie civile.
Et dans la mesure où ils seront désarmés, dans la mesure où ils sont désarmés, et surtout s'ils sont encadrés, je crois qu'il n'y a pas à avoir peur. Et s'il y a des mesures, évidemment, de réconciliation communautaire qui sont appliquées, je crois qu'il n'y a pas à avoir peur. Donc moi je crois qu'il y a des mesures qui doivent absolument être prises par le gouvernement à court terme. Hein, à court terme, je te soutiens à Mons qui a dit qu'il n'y a pas de raison qu'il reste longtemps dans des camps comme à Kitona ou Kamina. Ils ont suivi certaines formations et ils ne doivent pas rester longtemps là-bas, ils doivent retourner dans la vie civile. Mais il faut bien organiser les retours, évidemment. Et il ne faudrait pas que quand ils rentrent et puis après un temps, qu'ils se trouvent dans l'oisiveté.
Mais nous avions évoqué avec vous cette question du budget. Mais vous avez dit aussi, vous avez beaucoup de difficultés, des fois, au niveau de votre commission, la Semaine nationale, d'aborder ces questions qui touchent à la sécurité dans les séances publiques. Mais est-ce qu'on pense que nous sommes dans une session budgétaire? Parce que s'ils ont fait 3 ans, on va évoquer le
moyens, parce qu'on a vu à Kamina qu'il fallait attendre les avions qui allaient venir avec des biens, de la nourriture, des gommes jusque là-bas, les avions de la Monusco, ça posait un problème, tout ça. Mais est-ce que ces questions peuvent être aussi considérées comme des urgences au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des autres commissions, pour en discuter et éviter que ces ex-combattants ne soient d'une manière permanente comme un abcès pour le gouvernement, comme une marmite bouillante qui peut aujourd'hui, demain, nous retourner encore dans la situation. Est-ce que vous pouvez considérer ça au niveau de l'Assemblée nationale comme une urgence et que la question soit examinée?
Une extrême urgence au niveau de la commission. Il y a deux rendez-vous importants par rapport à ça. Il y a la reddition des comptes. Il y a un projet de réduction des fonds, savoir comment, dans l'exercice budgétaire passé, comment l'État a géré cette question. Et ça va intéresser le député membre de la commission de défense. Et le deuxième rendez-vous, c'est l'examen du budget lui-même, en termes de prévision. Parce que on est souvent, il y a moyen d'être inquiet quand le budget de la défense est autour de 400 millions de dollars. Pour un pays vaste comme le Congo, avec d'énormes défis, parce qu'il y a la défense, il y a les ex-combattants aussi. C'est pas facile. Normalement, on devrait avoir une planification pluriannuelle, c'est-à-dire sur 3 ans, sur 5 ans, une loi de programmation militaire avec un budget qui s'étend sur ces années-là. Et lorsqu'on a un document qui définit la vision, parce que là aussi j'ai des soucis, on n'a pas une sorte de livre blanc jusque-là de la défense qui identifie les menaces actuelles. Quelles sont les menaces auxquelles le Congo fait face actuellement et quelles sont les menaces auxquelles le Congo pourrait faire face dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, et quels sont les moyens finalement à mettre en œuvre, à mettre à la disposition du gouvernement pour y faire face. Voilà, il nous faut tout un livre blanc, un peu comme en France ou ailleurs, qui définit les menaces et qui définit les moyens pour y faire face, avec un outil de planification, c'est-à-dire un planning budgétisé. Et c'est de cette façon. Il faut gérer l'armée pas avec il faut pas faire une gestion annuelle uniquement. Il faut faire une gestion qui s'étend sur plusieurs années. Il faut avoir une vision qui s'étend sur le long terme. Et c'est là les durables.
André, vous êtes à Kananga. Bonjour. Merci d'être avec nous, André.
Bonjour Pierrot.
Alors vous avez suivi notre invité, c'est une question qui demande aussi des moyens, une politique bien définie pour gérer les anciens combattants. Comment on peut arriver alors à faire ça de manière efficace? Mais n'oublions pas quand même qu'il est le cadre de question de la question d'urgence.
Dans ce cadre, c'est lié au niveau de la planification, au niveau du sommet. Parce que ce genre de projet nécessite nécessairement de fortes expertises qui savent planifier les choses à la loupe, au niveau du sommet jusqu'au niveau de la base. En ce qui concerne la planification, le problème de réinsertion devait avoir une structure bancaire dans cette province d'origine où les réinsérés devaient partir. Mais dans ce cas d'espèce, nous voyons bien que le ministère de la Défense souffre des carences des ressources humaines qui peuvent mettre en place les projets de planification pour insérer les militaires dans les milieux d'origine. Nous prenons l'exemple du Kassai occidental. Nous avons connu le Conader qui a reçu les militaires qui étaient démobilisés pour entrer dans les familles d'accueil. Mais ce projet avait voué à l'échec. Pourquoi? Parce que tout le matériel qui était destiné à réinsérer les militaires dans les familles d'origine ont été totalement dépouillés par les gens qui n'avaient pas l'expertise réelle. Mais présentement ici, il y a des structures caritatives dans chaque province ici qui peuvent être identifiés dans le ministère des Affaires sociales, qui peuvent accueillir ces intérêts et puis pourront permettre ensemble de mettre une structure de suivi. Lorsque chaque militaire qui sera inséré dans son milieu d'origine, cette structure pourra faire le rapport au ministère des Affaires sociales. Lorsqu'une commission de suivi qui sera envoyée au niveau du sommet pour suivre les candidats qui sont insérés dans leur milieu, ne pourront plus descendre directement sur le terrain, ils vont se référer au ministère de tutelle pour savoir ce que chaque insertion est en train de faire dans le milieu d'origine. Mais le cas d'espèce, nous connaissons bien que le problème se pose au niveau du sommet où cette commission qui est chargée de bloquer les budgets pour envoyer les militaires dans le milieu d'origine, ce montant est en train de se volatiliser dans l'espace. Comment se fait-il que les gens peuvent faire 3 ans au niveau de Kitona pour parler de leurs problèmes aujourd'hui? Il fallait qu'ils passent les radios au Capi, il fallait qu'ils fassent des bruits pour qu'on sache qu'il y avait nos frères qui étaient débloqués de l'autre côté de Kitona. Le problème se pose au niveau des ressources humaines et dans le ministère de la Défense manque ils peuvent planifier des bons programmes pour insérer les gens dans les milieux d'origine.
Merci beaucoup, André. La question des ressources humaines, là, se pose l'expertise, mais le moyen aussi pour arriver. 3 ans, c'est beaucoup. Il fallait que les gens soient évacués, qu'ils retournent dans leur milieu et qu'ils soient encadrés. Mais ne pas prendre les erreurs qui ont été commises du temps de Conadeo. Merci beaucoup. Jean-Claude, vous êtes à Kindou. Merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour, Jean-Claude.
Jean-Claude, bonjour à vous les amis et voilà. Bonjour aussi à l'invité.
Mais en attendant, Jean-Claude, y a-t-il moyen de pouvoir arrêter votre poste récepteur, arrêter votre radio et puis on va échanger à travers le téléphone portable. On vous écoute, Jean-Claude. Jean-Claude, vous êtes avec nous.
Pierrot, moi je suis très content et d'autant plus que je me trouve devant l'honorable Juvenal qui est rapporteur de la sous-commission défense et sécurité. Bon, parce que quoi, il est l'autorité budgétaire. Juste avant de commencer, j'ai une petite question que j'aimerais poser à l'invité. En termes de pourcentage, le budget annuel alloué à la défense nationale, c'est combien? Car d'après moi, je suis en train de constater sans le vouloir que le gouvernement veut résoudre un problème tout en créant un autre, et sans tenir compte que ce qu'il a fait, c'est une véritable affaire, et où soit une bombe à retardement. Et en plus, vous vous souviendrez avec moi que ce n'est pas pour la première fois que ces situations se situent. Il y a eu Kotakoli, il y a aussi Kamila, et récemment à Kitola. Ce qui est grave, c'est quand vous voyez comment nos dirigeants sont en train de banaliser, sinon minimiser le fait. Même s'il y a un problème grave, comme c'était au mois de juin à Kamila, mais vous avez vu comment notre ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement avait essayé de banaliser ce fait. Donc ça, c'est une situation qui nous laisse vraiment perplexes. Lorsque j'ai entendu également leur porte-parole de mobiliser avec les Kitona, vraiment, vous allez vous rendre compte que nous avons des dirigeants qui ne se soucient pas de la vie quotidienne de leur population. Parce que, comme je l'ai dit, ça c'est une bombe à retardement. Et si vraiment on ne tient pas compte de cette situation, Pierrot, à la lire au vent les choses, nous serons dans une autre situation. Donc, d'après moi, je suis en train de voir qu'il faudra, n'est-ce pas, changer la situation. Et changer la situation, c'est quoi? C'est aller aux élections, faire une alternance, où nous aurons à un moment donné les dirigeants qui se soucieront de toutes les situations. Donc aujourd'hui, c'est comme si on était en train de naviguer ici. Nous sommes en train d'évoluer dans un environnement faisandé où les cachérois et la corruption règnent. On ne tient pas compte. Il y a des responsables, mais ces responsables peuvent détourner les moyens même de vivre. Récemment, on a entendu à Beni. Mais à un moment donné, vous allez entendre Tambour Bata, il y a des enquêtes, mais à un moment donné, c'est comme quelque chose, on voulait faire des chantages, à un moment donné, on ne verrait plus personne en train de parler de cette situation.
Voilà, et alors vous avez souhaité, Jean-Claude, que le gouvernement considère cette question comme une question capitale importante, parce que c'est une bombe à retardement. Vous avez demandé à notre invité, quelle est la part allouée aujourd'hui au budget de l'État, la part allouée à la défense dans le budget de l'État, ça représente quoi aujourd'hui? On pourra avoir cette question. Mais vous avez beaucoup insisté sur la manière dont le gouvernement doit traiter cette question des ex-combattants qui sont à Kamina ailleurs comme une question urgente et importante, y mettre de moyens. Mais tout finit aussi par l'alternance, votre souci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Maître Serge, vous êtes à Kamina. Bonjour, Maître Serge.
Bonjour Pierrot, bonjour l'invité, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio quand ils nous écoutent internet, et plus particulièrement aussi, je lance une félicitation à Donald Trump qui a gagné la campagne et qui a battu.
Merci.
Moi, je suis en train de craindre ces gens-là. Lion, quoi qu'il soit bien apprivoisé, il va finir par toujours être un carnivore. Vous voyez les gens qui sont en train de voler, d'inquiéter les familles. Ce sont les gens, aujourd'hui, on l'attrape. Il est matin, il est en prison, après il est sorti, il a amnistié ou il a réussi une liberté pour soi, après il va continuer à massacrer les gens. Ces gens-là, il fallait peut-être 5 ans ou un espace physique où on devait vraiment les sécuriser. Et les payer, avoir peut-être une prime la consistance. Voilà que si ces gens-là étaient payés, ils n'allaient pas réclamer les droits d'aller au milieu d'origine, puisqu'ils sont mal maltraités, ils sont vraiment maltraités, hein, mal gérés. en tout cas, moi, je suis en train de craindre.
Et vous voyez, d'ailleurs, on a vu, à la sortie de la longue période difficile que nous avons connue, on se rappellera avant les élections de 2006, dans beaucoup de villes, les cas d'insécurité ont été causés. Quand on a arrêté sur quoi des criminels, ils étaient présentés comme des anciens, des ex-combattants. C'était ces problèmes de réinsertion qui s'étaient posés pendant cette période-là. Merci beaucoup, Maître Serge. Honorable Juvenal Mounoubo, je reviens à vous. Tout à l'heure, il y a notre ami Jean-Claude qui vous posait la question sur la part allouée à la défense de Nalevidier aujourd'hui pour l'autorité budgétaire. Et les autres questions qui sont revenues, qui ont été déjà évoquées, presque par l'ensemble des éditeurs.
Alors, 2015-2016, le budget, c'était autour de 7 milliards, 8 milliards de dollars, et pas plus. Vous voyez déjà que c'est une contrainte terrible pour le Congo, la République démocratique du Congo. Je parle de la modicité du budget. Et cette année, on est autour de 5
milliards. Et la part de la défense.
La part de la défense là-dedans, en fait, c'est autour toujours de 400 millions de dollars. Ça reste peu. Mais nous ferons un effort dans l'examen du budget, hein, très très prochainement. Parce qu'il y a une autre possibilité. Même si le budget est modique, on peut toujours voir comment opérer des coupes dans d'autres secteurs, de façon à voluminer un temps sur le secteur de la défense. Parce qu'on se le dise, il faut dire la vérité, s'il n'y a pas d'amélioration dans le secteur de la défense, ça va être difficile d'exécuter le reste. Parce que la sécurité, c'est la condition à tous les restes dans la société. On ne peut pas planifier quoi que ce soit dans un environnement insécure. Donc, il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut pacifier le pays, il faut qu'il y ait la sécurité. Et pour cela, ça demande des moyens. Et le suivi des moyens, même s'ils sont des moyens peu, il faut suivre la manière dont ces moyens sont gérés. Et donc, pour tout dire, c'est peu. Autour de 400 millions de dollars, qu'est-ce qu'on peut faire pour un vaste pays comme le Congo? Mais la contrainte au-dessus de là, au-dessus de tout, c'est que le budget lui-même, dans son enveloppe globale, 5 milliards de dollars équivalents en francs congolais, on ne peut pas réaliser des grandes ambitions pour le Congo avec un tel budget. Donc, il faut trouver des solutions. Dans les secteurs, par exemple, de mines, les secteurs des hydrocarbures, les secteurs des douanes, tout ce qui échappe à l'État. Si l'État, il y a des recettes qui lui échappent, c'est le moment de prendre des décisions, lutter contre le coulage et faire en sorte que le budget de l'État se trouve renforcé, mobilisé. Les grands défis, par exemple, pour les prochains gouvernements qui arrivent, ça sera de mobiliser l'argent. Quelqu'un a parlé ici de l'alternance, nous tenons à ça, nous devons y arriver assez rapidement. Eh bien, il faut de moyens. Il faut de moyens parce qu'on reproche au gouvernement actuel de n'avoir pas mobilisé l'argent pour les élections. Et le décaissement ne s'est pas fait dans la fréquence qui devait suivre. Eh bien, un autre défi, ça sera de mobiliser l'argent pour les élections. Il faut pas qu'on arrive début 2018 en disant, voilà, il n'y a pas d'argent pour organiser des élections. Ça va être très difficile à comprendre.
Voilà, comme on a 2 minutes qui nous séparent, on va accorder à Étienne 1 minute, Pacifique aussi 1 minute. On revient à vous pour un mot de conclusion. Étienne, vous êtes à l'écoute.
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot.
Et en 45 secondes, rapidement, votre intervention.
Non, tout a été déjà vidé par l'invité, donc je suis parfaitement d'accord avec ses interventions. Je pense que à la longue, ce qui est mieux, est que après la démobilisation, ces anciens criminels ne doivent plus rentrer dans leur milieu d'origine. L'État congolais doit s'organiser pour les amener sous d'autres espaces géographiques afin d'être réintégrés dans la société et les permettre aussi d'exercer les métiers dont ils ont appris pendant la formation. Parce que les retourner immédiatement à cet instant, c'est très difficile parce que le coin est encore jalonné de beaucoup de criminels, beaucoup de groupes armés et ça ne serait pas bien dans cet environnement où nous savons très bien les conditions dans lesquelles les Congolais n'ont pas de l'emploi et la plupart des gens seront séduits par les recrutements des mouvements armés.
Oui, bon, merci beaucoup Étienne. Vous avez estimé que la réinsertion et réintégration, serait mieux de le faire ailleurs hein, que dans les milieux où il y a encore l'insécurité. On a tendance à revenir sur ce qui a été déjà abandonné. C'est ce que le gouvernement pouvait faire. Merci beaucoup Étienne. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. En 45 secondes, votre point de vue par rapport à cette question des anciens combattants.
Oui, merci Pierrot également à notre invité. Je voulais tout simplement dire rapidement qu'il faut éviter de faire l'apologie des crimes où les mêmes gens qui ont posé d'énormes problèmes à la population, et la population veut commencer à voir les mêmes personnes leur propre boulot, ça ne sera pas une bonne chose. Mais moi, je pense qu'il faut faire vraiment la part des choses dans tout ça. Des gens qui ont commis des exactions, des crimes contre l'humanité, ces gens-là, on doit les garder en principe. Mais néanmoins, le gouvernement est à la base de tout ça. On a dit que ça n'a pas pu marcher. Les projets d'EDR, tout ça, ça n'a pas pu marcher. Pourquoi? Parce que le gouvernement est beaucoup plus absent dans beaucoup de secteurs. Je pense qu'il aurait fallu, à l'heure qu'il est, le gouvernement devait envisager des travaux professionnels communautaires. En l'occurrence, la maçonnerie, la menuiserie, le champ et tout ça. Que le gouvernement devait avoir à son sein, comme le service national et tout ça, quand tous ces gens-là quittent la formation, on est
tout à l'heure et on les contrôle. C'est ce tout à l'heure notre invité. Merci beaucoup, Pacifique. Merci. Excusez-nous de vous interrompre parce qu'il faut permettre à notre invité de conclure. Honorable Juvenal Monobo, vous avez suivi les uns et les autres. On pense qu'on aura peut-être des réponses, même au niveau de l'Assemblée nationale, pour savoir comment cette question de démobiliser à Kitona peut être gérée. Et ça vous permet aussi de conclure en une minute cet échange.
Je crois qu'il faut répondre rapidement au mémorandum des ex-combattants qui sont à Kitona. Il faut qu'ils retournent chez eux, parce que sur le 2500, il n'y aurait que 450 qui sont rentrés. Et en retournant chez eux, il ne faut pas qu'on les jette comme ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec les auditeurs qui estiment qu'ils peuvent aussi constituer une bombe à retardement. Eh bien, ils retrouvent leur famille, ils doivent être bien encadrés dans la communauté, et qu'ils fassent autre chose que le métier des armes. C'est ça l'objectif. Et pour cela, il faut des moyens dans les domaines de la démobilisation. Il faut du suivi par les gouvernements et les structures qui peuvent aider le gouvernement dans le suivi au niveau local. Il faut un large partenariat local en termes de suivi, et il faut de la volonté politique pour tout réussir.
Merci beaucoup, honorable Juvenal Monobo. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, mais est aussi rapporteur de la sous-commission forces armées. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour commenter ces sujets autour des démobilisés.
Allô? 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 Mais il ne répond pas.
Merci à toute l'équipe pour la production de ce magazine. Julie Zabongonda était au standard et à la réalisation. Jédoni Nangassa à la mise en monde. Pierrot et la musique vous la présentez sous la supervision de Martin Sebujang. On retrouve par les auditeurs sur www.radiopapi.net. Le rendez-vous, c'est demain à 11h02 sur Kinshasa pour un autre numéro des paroles auditeurs. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.